Hello.
Salut, salut.
Bonjour et bonne année.
Bonne année, oui, il bonne a pu année. Te voir. T'as trop fêté, Pierre-Marie.
Oui, à base de soupe et de plaid. C'est le meilleur nouvel an que j'ai fait.
Ah, dommage. Bon, bah écoute. Ah oui, effectivement. Bon, Karine, toi qui peux parler, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Je vais vous parler d'Amadeus de Gilles Vincent, publié aux éditions Au Diable au Vauvert.
Pierre-Marie, tu pourras nous chroniquer un livre quand même, t'as un gros
oui,
pavé
oui,
devant
oui,
toi.
Oui, bien sûr que je vais vous chroniquer un livre. Enfin, je vais tenter de vous chroniquer un livre et je m'excuse d'avance à la fois pour l'autrice et pour la maison d'édition de la chronique assurée par ces quintes de tout intempestives. Mm-hmm. Je vais vous chroniquer les héritiers, les féeries d'Echade de Cindy Van Wilder Zanetti aux éditions Scrinéo.
Bon. Et puis, en deuxième partie d'émission, on écoutera l'interview
de Hugo Bellagamba.
Hugo Bellagamba, que tu as interviewé il y a un mois et demi, quelque chose comme ça, oh oui, aux Utopiales. Voilà. Et puis, tu avais chroniqué ces deux dernières sorties.
Exactement.
Dans notre émission du 26 décembre, que vous pouvez réécouter en podcast hein, sur le site radio-g.fr. Donc, tu l'avais interviewé à ce propos. Et on commence tout de suite en musique avec un groupe parisien, il s'appelle Staircase Paradox. Et voilà, le morceau s'appelle, comment ça s'appelle ? Love Zone. Et d'après eux, c'est un morceau qui parle de deux sujets dont on peut enfin parler librement au XXIe siècle, Dieu et le sexe. Alors je sais pas si c'est ironique, mais...
Dans ce sens-là ?
Ouais, c'est écrit effectivement dans ce sens-là. C'est un groupe qui sort un morceau tous les 13 du mois. Et donc voilà, c'était le morceau de décembre 2023. On s'écoute ça tout de suite dans Imaginaire sur le 101.5, Staircase Paradox.
Baby, on dit que t'es mon art débit. Mes comètes sur ta lune, si nos planètes s'alignent, si nos planètes s'allument, oh, rapture cosmique. Je pars au ciel après tout. Au siècle des lumières ont succédé, ceux des fous. On fout nos vies en l'air sous arbitrage vidéo. Puis on cherche qui a fait faute, que nous sommes rigolos. Les nuages ont l'air secs comme un dernier sky. Je sais mouiller tes lèvres, mais pas sauver la terre. Et les blattes des blattères de navrantes hypothèses, les punaises, sont-elles venues par la mer? Non. Dieu m'a dit là-haut y'a pas grand chose. Mes ouailles sont des images, je suis un parent pauvre. On m'a vu dans le corps faire mes courses en peignoir. Chérie, la fin du monde, je veux la vivre avec toi.
Yeah. C'était donc Sterkis Paradox dans Imaginaire sur le 100.5.
Et donc, avec Amadeus, Gilles Vincent nous propose une suite de son roman Usuelle Victime, sans pour autant que la lecture de ce dernier soit obligatoire pour la compréhension du récit. On retrouve notamment le personnage...
Je lui coupe son micro.
Le personnage Stéphane Brindy et quelques références à Usuelle Victime qui donnent sacrément envie de le lire aussi, si comme moi, vous l'avez loupé lors de sa sortie en 2022. Dès les premières lignes, nous sommes embarqués dans le quotidien d'un personnage, Amadeus lui-même, un serial killer prêt à tout pour retrouver Stéphane Brindy, qui a été admis dans le service de psychiatrie de Béatrice Rougière. Il va donc poser un ultimatum à cette psychiatre pour accélérer la libération de Stéphane afin d'asseoir à nouveau son emprise sur lui. Tout ne se passera pas. Selon ses plans, Stéphane a grandi et est conscient du danger qu'Amadeus symbolise. Il va donc se protéger coûte que coûte, quitte à risquer sa propre vie. Et quand tout semble rentrer dans l'ordre, le danger ne vient pas toujours d'où on l'attend. Je vous laisserai découvrir les nombreux rebondissements et le suspense haletant de ce polar surprenant, terriblement noir et psychologique que vous allez certainement dévorer. Gilles Vincent réussit à nous happer avec une plume percutante, un récit construit en alternance de points de vue et des chapitres courts pour nous immerger d'autant plus dans cette ambiance angoissante où le danger avance à petits pas, patiemment mais sûrement. Il met en avant également quelques références dont Mozart et le Seigneur des Anneaux. Gilles Vincent est un auteur principalement de polar, il écrit également pour la jeunesse et a été plusieurs fois récompensé. Il a notamment obtenu en 2014 le prix Europolar pour Diebel, le prix Sésame pour Bezos de la Muerte, en 2021 le prix de la Boétie et le prix Mauvin Noir, pour les poupées de Nijar, en 2022 le prix du Verdoyer pour une Usuelle Victime. Après avoir été commercial, il se consacre à l'écriture et anime des ateliers en milieu scolaire, en prison et à l'hôpital. Je vous invite à découvrir ses nombreux romans, si ce n'est pas déjà fait, et de mon côté, je ne manquerai pas de suivre ses actus. Notez bien, Amadeus sort le 18 janvier, donc jeudi prochain, et je vous laisse avec Skalmold, un groupe viking folk metal islandais, et leur chanson Idalir, issue de leur dernier album du même nom, sorti en août 2023 sur Radio G.
Tanta vida en todos los clones, un dulce restiro pigdi. Ya
C'était donc
Skalmold.
Il n'y a que toi qui arrives à le dire, ça. Parce que la platine, elle m'écrit un truc, mais en symbole complètement kabbalistique. Elle ne connaît pas tous ces sigles de l'alphabet islandais.
Ah, oui, oui. Bah, en même temps, c'est compliqué. Parce que vous n'avez pas l'écriture. Hein.
Pierre-Marie, alors, ça y est, t'as retrouvé ta voix.
Alors, non. Mais en même temps, l'alphabet nordique, ils ont des trucs bizarres. Ils s'amusent à mettre des petits ronds, des petits chapeaux sur les lettres.
Voilà.
C'est pas très catholique.
Forcément, la platine qui dit des MP3, pff, ouais, comprend rien.
Et pourtant, ce sont des groupes en général géniaux.
Comme je vous le disais, bien que malade, j'ai lu et ça a été un vrai plaisir. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un page-turner captivant que m'a gentiment envoyé les éditions Scrineo. Ça faisait longtemps, ça m'a fait plaisir. En même temps, il faut avouer que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de Young Adult et c'en est. J'avais découvert Sidney Van Wilder, je sais pas comment on dit, je suis désolé pour vous, Cindy.
Si elle nous écoute.
Je l'avais découvert, par contre, dans l'anthologie des Imaginales en 2016 et j'avais été envoûté par sa série Terre de Brume qui était parue chez Rajou en 2017 et 2018. Aussi, quand les éditions Scrineo m'ont proposé cette nouveauté, joli bébé de 450 pages, on s'amuse avec ce qu'elle porte, j'ai pas hésité longtemps. En même temps, faut que je vous avoue, le choix c'était où ça? Ou alors, quelques bouquins sur l'ingénierie financière et comptable. Je vous avouer que, mon cœur a balancé, mais pas longtemps.
Tu vas encore avoir des belles notes, toi.
Je fais ce que je peux. Hein. En même temps, il y a certains livres pour faire du pognon et il y en a d'autres pour discuter altérité. Et ben, je me suis dit, altérité,
okay.
Autant y aller. Mais de quoi est-ce que ça cause? Et oui, parce que, outre certaines nouvelles que Cindy a écrites, effectivement, j'avais plutôt un avis sur son écriture à destination d'un public vieux ados ou ados, mais pas young adultes. Et là, on rentre dedans, et pas que pour l'histoire. Je m'explique. Si vous êtes amateur de steampunk, comme la série vidéo sur Netflix, Arcane, dérivée de League of Legends,
enfin donc.
Ou alors Grisha, ou d'autres séries romanesques dont je n'évoquerai pas les noms ici, vous n'allez pas être dépaysé. C'est un univers où magie et technologie cohabitent. Quoique cohabiter est peut-être un bien grand mot. En fait, il y a une disparité ethnique. Que des humains dedans, pas de question là-dessus, mais un peuple est capable de pratiquer une forme de magie, de naturalisme. Et l'autre, pour pas être laissé trop en plan, s'est évertué à innover, technologie. Nous avons donc les arcanes, les magiciens, et les écharis, les technophiles. Forcément, au bout d'un moment, il y a une lutte entre les deux, puisque les deux peuples n'arrivent plus à se comprendre. Ce qui, à la base, est une lutte de survie, devient une lutte pour la domination. Cette lutte est remportée par les écharis, les technophiles, si vous avez suivi. Ils sont passés de personnes un petit peu à la ramasse, peuple un petit peu à la ramasse, à dominants qui ont décidé d'asservir tous les arcanes. Oui, c'est un peu une rengaine qu'on trouve assez régulièrement dans les dystopies. Forcément, le personnage principal est une arcane. Alors, là aussi c'est une question, j'y reviendrai plus tard. Mais vous avez compris l'enjeu géopolitique de ce roman. On va donc suivre un personnage qui s'appelle Aradia. Elle est une arcane, elle est donc asservie. Qu'est-ce qui se passe pour les arcanes? On n'a pas trop la temporalité, on sait juste que la dernière guerre s'est passée à peu près au moment de la naissance de Aradia. Oui, c'est ça, Aradia. À chaque fois, je me plante entre Aradia et Azaria et je m'excuse d'avance. La dernière guerre s'est passée à peu près à la naissance et à ce moment-là, il a été décidé chez les écharis que tous les arcanes devraient avoir un maître, perdaient leur statut de citoyen, leurs droits, et ils auraient tous une dette qu'ils devraient rembourser pour gagner leur liberté. Une sorte d'asservissement. Les enfants sont séparés des parents, les parents sont asservis et utilisés, etc., etc. C'est la même rengaine. Et on va suivre ce personnage, premier chapitre. Aradia a une petite sœur, elle est dans une sorte d'orphelinat et elles sont vendues à des propriétaires écharis. Fin du premier chapitre, on vole la mémoire de notre personnage. Elle ne se souvient plus de rien. On ne sait pas trop quel âge elle a, entre 12 et 14 ans.
Donc c'est la technologie qui fait ça?
Alors, non. Ah. Mais merci pour la question. Comme dans n'importe quelle guerre, il y a des personnes dont la seule motivation est de survivre, quitte à s'allier avec les dominants. Et effectivement, certains arcanes, pour un petit peu améliorer leurs conditions, s'allient avec... s'allient de bonne volonté ou par contrainte, hein, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais donc, ce sont des arcanes qui ont la capacité d'effacer la mémoire, qui vont être utile aux écharis. Notre personnage se retrouve vendu à un maître de cirque, Monsieur Loyal. Pourquoi? Parce que notre personnage est aussi quelqu'un de particulier, en plus d'avoir une sensibilité particulière à la magie. C'est un personnage non-binaire. Le parti pris dans le roman est celui-ci. Notre personnage est non-binaire et c'est une femme à barbe. Elle va donc aller dans un cirque. The Greatest Showman, souviens-toi de ce film-là. Et c'est ça. On va suivre notre personnage sur, au départ, les premiers chapitres, qui est un cirque humain, où on va utiliser à la fois, donc, que des arcanes, qui ont des pouvoirs plus ou moins développés, donc, ils vont pouvoir faire des tours de magie dans un cirque, mais aussi leur propre morphologie qui va servir à faire des spectacles.
Comme des freaks.
Exactement. Merci. Sauf que, c'est pas une condition, qui donne envie. Et notre personnage principal, accompagné de ses amis, Yanel, Théo, Ernest, décide de s'échapper. Parce que quelles que soient les actions qu'ils font, ça leur permet de rembourser une partie de leur dette. Bah oui, mais ça peut aussi aggraver leur dette. Le fait de se nourrir, de manger, on leur facture le prix de la nourriture.
Ah oui, c'est au quotidien.
Donc, en fait, c'est un système qui est pervers dès le départ. Ils sont incapables de retrouver leur liberté. Et ils décident de s'échapper, sauf que ça ne va pas se passer comme attendu. Ils vont être piégés et, la mort ou être envoyés chez les Haringwood. Les Haringwood, c'est une famille de très haute noblesse chez les Eschari qui a mis au point des sortes de cristaux énergétiques, l'équivalent de l'électricité. En fait, ils ont inventé des piles. C'est des cristaux, c'est plus drôle. Et donc, ces piles-là sont vendues dans tout le monde de manière à pouvoir alimenter les établissements ou juste les lampadaires, tout ça. Donc c'est une famille extrêmement riche qui a décidé, parce qu'elle est quand même un petit peu philanthrope, elle a décidé de mettre en point des jeux. Et elle permet à tous les arcanes de participer à ces jeux, et les gagnants de ces jeux, une fois par an, gagnent leur liberté. Mm-hmm. Bon, ils gagnent aussi leur survie. C'est quelque chose dont les autres participants ne peuvent pas forcément se prévaloir. Notre personnage et ses amis ont donc le choix, ou bien ils se font buter, ou bien ils vont participer au jeu. Je ne vous en dis pas plus. Toujours est-il que cette partie-là permet aux éditions Scribno de faire un parallèle entre ce roman et la série des Hunger Games que vous connaissez. C'est à peu près la seule ressemblance, puisque Cindy Van Wilder n'a pas d'intérêt ni dans le dolorisme, ni dans le sadisme. Le roman ne s'intéresse que de très très long à ces jeux-là, mais va plutôt s'intéresser sur l'impact psychologique et relationnel, à la fois sur notre personnage et sur l'ensemble des personnages. C'est un roman young adult, comme je vous le disais.
Et alors, pourquoi c'est du young adult?
Pourquoi c'est du young adult? Parce que les questions qu'il y a dedans, les thématiques qui sont importantes dedans, sont l'altérité, et à travers celle-ci, l'empathie, la quête de soi, et puis, juste l'acceptation de la différence. Et pour ça,
il y a pas d'âge pour lire ça.
Et on pourrait considérer que certains romans sont à destination de ce type de public. De par ses personnages principaux, et aussi de la manière dont c'est écrit. Et c'est ça qui est très intéressant. Cindy met en place ce roman avec l'utilisation de l'écriture inclusive, que ça soit par des pronoms neutres ou que ça soit par le point médian, de manière suffisamment subtile pour que ça ne soit absolument pas dérangeant à la lecture. Je vous disais que ça faisait 450 pages, ça vous tombe des mains, ça se lit d'une traite. C'est un vrai page-turner avec de l'écriture inclusive et c'est un pari réussi. Je mets toutefois une très très légère parenthèse. Si c'est l'épique ou l'adrénaline qui vous anime, vous pouvez passer votre chemin. Cette lecture vous laissera un peu sur votre faim. Les jeux dont l'enjeu est la survie de notre héroïne ne sont qu'un décor. Dans ces pages, il n'y a pas de sadisme, comme je vous le disais. L'autrice ne s'appesantit pas sur la distraction cruelle, préfère explorer les effets de la psyché et de l'osmose d'un groupe. C'est d'ailleurs la force de la plume de Cindy, chose qu'on lui retrouvait déjà dans ses séries chez Gulfstream et Rajo, qu'elle a perfectionnée. Ici, une plume déliée, une langue inspirante pour parler de l'intime et du sensitif. C'est à ce but que notre autrice utilise avec intention la langue inclusive, comme je vous le disais, et une mise en abîme des relations sociales, à la fois dans la différence physique, mais aussi psychologique. Et puis je vous laisse avec Hollywood Undead.
Dans Imaginaire sur le 100.5, ouais, avec le morceau « Whatever it takes ».
Side to side, and when I pull out the nine, you better wait.
I've been waiting for this moment every day of my life. These fucking people always say the same old thing, but you can't slay or conquer the king. I'm from a nightmare, but I'm living the dream. You need to back up if you're not with my team. Cause I do whatever it takes to make it breakthrough. Anything I'm face to face with, it's true. You gon' make me lose my patience, cause victory is mine and I'm gonna take it.
So put your hands up high and wave them side to side. And when I pull out the knife, you better wave bye-bye. So take a page from my book, roll it up and get cooked. Watch these ladies get hooked while all these haters get shook. So put your hands up high, wave from side to side. And when I pull out the knife, you better wait bye-bye. You better wait bye-bye. You better wait bye-bye. You better wait bye-bye. You better wait bye-bye.
Hollywood Undead dans Imaginaire sur le 101.5. On passe tout de suite à l'interview d'Hugo Bellagamba que tu avais réalisé aux Utopiales, Karine.
Dernier jour pour Imaginaire aux Utopiales et je suis en compagnie d'Hugo Bellagamba, auteur, essayiste, novelliste. Tu as reçu en 2005 le prix Rosny-Aîné, la nouvelle pour Chimère, paru chez Bifrost, numéro 36, le Grand Prix de l'Imaginaire en 2009, pour ton essai Solution non satisfaisante, le prix Rosny-Aîné en 2010 pour ton roman Transgrède, une uchronie, et le prix européen Utopiale des Pays de la Loire pour ce même titre. Tu as été également délégué artistique des Utopiales de 2012 à 2015 et tu enseignes l'histoire du droit et des idées politiques à l'Université de Nice. Donc on va principalement parler de tes deux derniers livres, ton roman Le Monde de Julia, publié en avril et coécrit par Jean Barré, et ton dictionnaire utopique de la science-fiction, publié en octobre. Donc Le Monde de Julia traite du droit et de la justice. Vous avez choisi tous les deux le prisme du post-apocalyptique et la philosophie. Qu'apporte ce choix littéraire à votre message ?
Alors notre message, en fait, c'était de montrer un monde dans lequel il n'y avait plus de justice, pour voir s'il était possible de la réinventer. Évidemment, le contexte s'y prête assez, puisqu'on est dans un monde un peu en crise, on est dans un monde un peu qui doute de ses institutions. Et justement, la justice, ça n'est pas qu'une institution. On parle souvent des tribunaux, mais ça, c'est l'aspect institutionnel. La justice, c'est aussi une valeur philosophique, un point de repère dans la société, un sens, le sens de la justice. Et donc, on a voulu interroger comment faire si on perd la justice pour la retrouver dans un monde post-apocalyptique, avec deux possibilités, en quelque sorte, qui vont évidemment se rencontrer. D'une part, la justice la plus philosophique, celle qui s'interroge, qui se demande qu'est-ce que la justice. C'est Julia, évidemment, toute seule, qui s'interroge sur le sens de la justice, sur ce que signifie la justice, sur les repères historiques de la justice. Et puis de l'autre côté, dans une cité post-apo, un peu perdue, qui a perdu complètement la notion de justice, des clans qui finalement s'opposent les uns aux autres, et non finalement de la justice qu'un point de repère un peu dogmatique, souvent un livre, qui n'est d'ailleurs pas forcément un livre qui vient, si tu veux, des sources judiciaires initiales, mais un livre qui vient de la culture populaire ou une série télé. Alors il y a Fight Club, par exemple. Et on a voulu faire se confronter ces deux visions. Donc d'une côté, une cité qui applique la justice à la lettre sans savoir ce que c'est, et de l'autre côté, une jeune fille qui réfléchit philosophiquement à la justice, mais qui, parce qu'elle est seule, ne fait pas société. Et donc les deux vont se rencontrer.
Très bien. Comment s'est déroulée l'écriture à quatre mains, puisque vous êtes deux ?
Alors, l'écriture à quatre mains, ça se déroule, c'est chaque fois différent. Moi, j'ai fait pas mal de projets en coécriture, j'aime beaucoup ça. Ici, c'est un peu particulier, je te le raconte. La première version de Julia a été écrite uniquement par moi, tout seul, il y a un certain nombre d'années. Et c'était principalement centré sur le personnage de Julia. Le défaut de ce projet était que je n'avais pas bien développé l'univers. Et du coup, ça ressemblait plutôt à une discussion comme Le Monde de Sophie, une discussion finalement sur la justice entre Julia et son robot, puis après entre un autre personnage qui va intervenir. Mais ça restait, si tu veux, un peu désincarné. En tout cas, il y avait Julia, mais il n'y avait pas de matière autour. Et ça a été refusé, en fait. Je l'ai proposé à quelques éditeurs qui l'ont refusé. Et quand on s'est rencontré avec Jean Barré, qui lui-même est avocat de formation et qui est aussi auteur, bien sûr, déjà, ici même, aux Utopiales, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé entre juristes. Et je lui ai dit, moi, j'ai ce roman qui n'a jamais trouvé preneur. Il m'a dit, fais-moi le lire. Donc, je lui ai envoyé. Il a lu et puis il a dit en fait c'est très intéressant, mais effectivement tu aurais pu développer ton univers, notamment tu parles beaucoup de cette mégapole post-apocalyptique où c'est la violence, en tout cas, ou de façon très dogmatique de voir le droit, c'est dommage. Et je lui ai dit si tu veux, si l'envie est là, développe et voyons. Et donc il a commencé à rédiger très rapidement, parce que Jean, il va très vite, et c'est un de ces auteurs capables d'écrire à la fois vite et très bien. Il a donné des chapitres. Les premiers chapitres m'ont énormément plu. Et ensuite, il a fallu qu'on coordonne les chapitres de Jean avec les miens, et qu'on relise tout, et qu'on reprenne tout, qu'on harmonise tout. Donc, ça a été un travail, si tu veux, en termes d'écriture, en décalé, mais en termes de structure et d'harmonisation, main dans la main. Et donc, il y a eu cette phase d'abord d'écriture pour Jean, puis de réécriture ensemble, et enfin d'harmonisation, pour bien positionner les chapitres là où ils devaient se trouver, pour que l'aller-retour, le dialogue se fasse entre la mégapole et Julia. Et ça a donné le roman. Et la chose la plus belle, pour te dire la vérité absolue, pour être absolument transparent, c'est que le premier éditeur auquel on l'envoyait l'a accepté instantanément. Mais... Et c'était Davy Atuil, donc de Mu. Et voilà, donc ça prouvait qu'effectivement, le bouquin ne pouvait exister qu'avec l'apport de Jean. Mmh. Et donc, c'était, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
Et justement... La coécriture t'inspire beaucoup, visiblement. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire davantage là-dessus ? Qu'est-ce que ça t'apporte ?
Ouais. Alors d'abord, ça apporte un enrichissement incroyable, puisque le regard de l'autre auteur, vient questionner la validité de mon regard. Ce qui signifie que ça peut être perturbant au début, parce que tu dis, moi je pense par exemple au Double Corps du Roi avec Thomas D, qui date un peu maintenant, mais qui était une très belle expérience. Effectivement, ton co-auteur vient te dire, là on comprend pas bien ce que tu veux dire, on n'est pas, est-ce que tu pourrais me le dire autrement, est-ce que voilà. Et donc ça, c'est un peu perturbant. Mais derrière, je dirais, ce premier stade un peu perturbant, qui peut être même un peu agaçant. Et pour l'autre aussi, évidemment, il y a un stade de la rencontre, de la compréhension mutuelle qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Alors, le monde de Julia en est la preuve, puisque sinon il n'aurait pas existé. Et dans Le Double Corps du Roi, pareil, l'univers visuel, l'univers mental, l'univers créatif de Thomas D a complètement transcendé ce que j'avais prévu moi. Moi, je m'inspirais d'une théorie médiévale, des deux corps du roi, un truc assez finalement un peu obscur, tu vois, qui aurait pu sans doute être difficile à comprendre pour une partie des lecteurs. Et donc voilà. Donc, pour moi, la coécriture me permet d'aller plus loin sans renoncer à mon identité en tant qu'auteur. Ouais. Et je pense que beaucoup d'auteurs et d'autrices ne vont pas dans cette direction, probablement parce qu'ils s'arrêtent à cette première phase qui est un peu la nécessité du dialogue, la nécessité du compromis, etc. Ouais. Mais derrière, moi, je peux le dire, dans toutes mes coécritures, il y a quelque chose d'extrêmement jouissif. Et donc, c'est vrai que sans être systématiquement dans la coécriture, il y a des projets qui sont très personnels, je trouve que c'est très positif. Et en plus, dans le milieu de la science-fiction, encore plus, puisqu'on est un milieu et on est une littérature qui est très marquée par ce qu'on appelle l'intertextualité, c'est-à-dire que, par exemple, les idées peuvent passer d'un auteur à l'autre. Il n'y a pas... tu parles d'hyperespace, de voyage spatio-temporel, c'est pas quelqu'un qui en est propriétaire. Mmh. Et donc, cette communauté de la science-fiction, elle aime bien mutualiser les thématiques. Et donc, dans un monde comme ça, justement dans l'idée de mutualisation, la coécriture, elle peut venir naturellement. Voilà. Donc j'y suis très attaché.
D'accord. quand tu coécris quelque chose, est-ce que va y avoir une différence par rapport au travail éditorial par la suite?
Tu veux dire dans les rapports avec l'éditeur?
Oui.
Alors, les rapports avec l'éditeur, en fait, je pense, ne dépendent pas du fait de coécrire ou d'écrire seul. En fait, ça dépend surtout de l'éditeur. Alors, il y a des éditeurs qui font énormément retravailler, il y a des éditeurs qui sont très présents, d'autres un peu moins présents. Il y a des éditeurs qui te font confiance, évidemment, spontanément. Il y en a d'autres dont il faut gagner la confiance. Donc, finalement, pour bien répondre à ta question, je te dirais que chaque éditeur est différent. Et du coup, l'aboutissement de chaque livre de fiction, hein, là, on parle surtout des fictions, est différent. L'un de ceux qui, je pense, m'a le plus accompagné à l'époque, en tout cas dans le travail de relecture, à l'époque, c'est Olivier Girard, justement, que je retrouve avec le dictionnaire pour mes premiers textes, mon premier recueil qui s'appelait La Cité du Soleil. Mais aussi, j'ai bénéficié des conseils extrêmement éclairés de Thomas D, dont le nom en tant qu'éditeur est Gilles Dumay, et aujourd'hui il fait Albin Michel Imaginaire, et je sais que c'est pour moi l'un des meilleurs éditeurs, en tout cas l'un de ceux qui fait le plus retravailler. Après, il y a des éditeurs plus doux, mais qui sont quand même très vigilants, et notamment Davy Atwill, avec lequel on a travaillé Le Monde de Julia, a été très présent dans l'enfantement du livre, dans l'ajustement. Je me rappelle notamment, pour te dire quelque chose que je ne dis pas d'ailleurs d'habitude, hein, il n'y a que vous qui aurez cette information, c'est sympa. Dans Le Monde de Julia, on avait écrit avec Jean dans des temporalités différentes. Moi, j'écrivais plutôt au passé narratif, Jean écrit plutôt au présent de l'action. Et donc, il s'est posé la question de savoir lorsque les deux lignes narratives se rejoignent, qu'est-ce qui devait primer, le passé, le présent. Et donc il y a eu de très belles discussions avec Davy, qui avec beaucoup de finesse, hein, je le remercie pour ça, nous a amené à prendre une décision, bon je ne vous dis pas laquelle, mais qui était tout à fait qui était la bonne, et je pense que sans lui on n'aurait pas pu. On n'aurait pas pu, et du coup le travail éditorial, c'est vraiment ça qui fait exister les bouquins. Et de toute l'expérience que j'ai eue, je remarque que quand l'éditeur est absent, on n'aboutit pas de la même façon. Donc, ou on n'aboutit pas des fois. Donc, finalement, pour bien répondre à ta question, ça dépend vraiment, souvent, et principalement de la personnalité et des méthodes de travail de l'éditeur.
Très bien. Et pour parler de ton essai Dictionnaire utopique de la science-fiction, comment t'es venu l'idée d'écrire un dictionnaire utopique? J'aimerais bien que tu parles de tout le travail d'écriture que tu as eu, la documentation sans doute.
Oui, bien sûr. Alors, je réponds à ta question en deux temps. Comment est venue l'idée d'un dictionnaire? Alors, j'ai fait pour l'université, moi je suis universitaire. Dans le parcours d'un universitaire, bon, tout le monde sait qu'il y a une thèse, mais il y a aussi, quand tu as un certain nombre d'années de pratique de l'université, tu as ce qu'on appelle une monographie. On appelle ça une habilitation à diriger les recherches. Il faut donc fournir une monographie, c'est en fait un livre sur un sujet. Et donc j'avais rédigé il y a quelques années, en 2015, une monographie sur l'utopie, le droit dans l'utopie, et voilà, qui m'a pris énormément de temps. Et comme je connaissais bien Roland Lehoucq, président des Utopiales, mais surtout directeur de la collection Parallax, je lui avais adressé cette monographie. Donc il avait lu, et il m'avait dit, écoute Hugo, c'est super ce que t'as fait, bon c'est quand même un peu pointu, hein, c'est pas forcément, voilà. Si tu pouvais faire quelque chose de similaire, mais de plus ouvert sur la science-fiction, ce serait génial. Et donc j'ai commencé à y travailler, donc en 2015, tu vois, ça ramène, hein, en arrière dans le temps déjà. J'ai commencé à y réfléchir à partir des années, voilà, 2017-2018. Je connaissais bien la science-fiction et j'en ai lu tout le temps, donc finalement le travail de recherche, j'avais une grande bibliothèque à la maison, j'avais déjà commencé finalement à le faire. Et donc c'était un travail qui a commencé finalement dans ma tête, un bon moment avant l'apparition du dictionnaire. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de refaire un essai structuré comme une monographie, c'est-à-dire faire un plan avec des chapitres, avec des paragraphes, avec des sections, c'est-à-dire, tu sais, ce côté très démonstratif de je vais vous parler, voilà. Et donc je cherchais un format différent. Et donc, où le dictionnaire s'est imposé, parce que j'ai toujours aimé les dictionnaires. J'aime beaucoup les dictionnaires, par exemple, d'Alberto Manguel sur le dictionnaire des lieux imaginaires. Et quelqu'un dans ma famille, mon oncle en l'occurrence, m'avait offert le dictionnaire philosophique d'André Comte-Sponville, qui est un philosophe. Et dans ce dictionnaire, on voit bien qu'en fait, l'auteur a exprimé sa vision de la philosophie tout en donnant les jalons. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai proposé ça à Roland, qui m'a dit... Au premier coup, un dictionnaire, bon, moyen, quoi. Est-ce que ça se vend, un dictionnaire? Ça paraît un peu là. Mais je lui ai expliqué ma démarche. Je lui ai dit, ce sera un dictionnaire amoureux de la science-fiction, mais on va l'appeler le dictionnaire utopique, parce que je vais insister sur les liens entre l'utopie et la SF, ce qui est une conviction que j'ai profondément ancrée, que la science-fiction continue l'utopie. Et donc, il m'a dit, prudemment, parce qu'il est prudent, malgré nos liens, évidemment, il m'a dit, écoute, fais-moi 3-4 entrées, et je vais voir. En gros, test. Et donc, j'ai fait ces entrées. L'une des premières, d'ailleurs, et là, vous êtes les seuls à qui je le dis aussi, vous voyez, comme quoi, c'est l'entrée Mars, qui est une de celles que j'aime beaucoup. Après, j'ai fait une entrée institution pour jouer un peu la carte de mon profil historien du droit. Et donc, je lui ai envoyé ces premières entrées, et il m'a dit, écoute, c'est super, j'adore. J'adore. Il faut trouver le bon format. On s'est dit que 10 000, 15 000 signes, c'était bien. Ça faisait 4-5 pages à peu près. Trop, ça devenait des mini-essais, c'était pas bien. Et trop court, c'était anecdotique au final, tu vois. Alors il aurait fallu faire. Et moi, d'emblée, je voulais pas un dictionnaire avec genre 100 entrées très courtes. Et donc, je voulais quand même des entrées qui soient comme des petites planches de réflexion. Et donc on a trouvé le bon format, j'ai donné ma liste d'entrées, on avait au début un plus grand nombre d'entrées, on a fait des sélections, donc et là j'arrive à la deuxième partie de ta question, il m'a accompagné tout au long du processus, et ça je dois dire, c'est extrêmement précieux d'avoir un éditeur qui, au lieu d'attendre que tu aies fini pour lire la totalité et discuter, moi ici, Roland, il m'a accompagné au fil des entrées, c'est-à-dire chaque fois que j'en finissais une, je l'y envoyais. On avait notre petit ping-pong sur « Ah, cette référence-là, peut-être elle n'est pas claire. Ah, tu aurais pu mettre cette référence-là, etc. Ah, ce raisonnement, j'aime bien. Là, ce que tu dis, c'est très personnel. Est-ce que tu pourrais un peu... » Voilà. Et donc, il m'a vraiment accompagné. Et les entrées se sont naturellement mises en place durant toute la durée de la rédaction, de telle manière qu'à la fin, finalement, quand on est arrivé à l'idée « Bon, maintenant, il faut arrêter le dictionnaire », on a choisi le nombre d'entrées qui était ni trop important, ni trop réduit, et on l'a fait ensemble, et donc ça donne le dictionnaire. Et donc, pour moi, je dirais que c'est un des bouquins qui est le plus personnel dans mon parcours. Et puis c'est bien qu'il soit venu maintenant, pour finir, j'étais un peu long, je m'excuse, mais c'est bien qu'il soit venu maintenant, parce que si je l'avais fait avant ma monographie, tu sais, j'aurais été dans le piège un peu pas prétentieux, mais un peu, tu vois, le défi de dire bon bah je vais faire mon essai sur la science-fiction très structuré, etc. Et là je pense que c'était beaucoup mieux comme ça, c'est plus humble et en même temps ça reste très personnel. Les gens peuvent naviguer dans les entrées comme ils veulent et il y a quand même une bibliographie de référence qui est quand même imposante et qui permet aux gens d'aller plus loin.
Ouais. Et c'est super enrichissant, justement.
Merci.
Et tes projets 2024 ou futurs ?
Mes projets 2024. Eh bien, écoute, tu sais quoi ? L'année 2023 a été tellement parfaite. Puisque sortir deux bouquins la même année, un que j'avais initialement écrit pour ma fille qui avait 11 ans, aujourd'hui elle en a 19, et qui a été transcendé grâce à l'arrivée de Jean, et encore une fois, rencontre absolument providentielle, à la fois humaine et littéraire incroyable, et le dictionnaire qui a été vraiment le format dont je rêvais. Je t'avoue que j'ai pas vraiment réfléchi, mais je peux dire ce que j'ai en stock. J'ai fait un programme Erasmus de mobilité enseignante en Italie du Sud, dans les Pouilles, pendant 3 mois l'année dernière. Et pendant ces 3 mois, j'ai écrit. J'ai écrit un texte qui, pour l'instant, est une novella, qui n'est pas aboutie, mais je pense que ma priorité serait de la faire aboutir. Et pour l'instant, c'est sur ça que je travaillerai. Plus loin dans le temps, il y a un projet étrusque que je traîne depuis bientôt 15 ans. De contes étrusques, mais envisagé plutôt dans un cadre fantasy, avec de la divination et de la magie. Le programme est prêt, je sais exactement, ça contiendra 12 textes, mais pour l'instant, on est encore loin, je pense. Donc 2024, peut-être une novella, mais alors enfin, fin 2024, ouais. Dans le meilleur des cas. Mais tu sais, j'ai appris à accepter ma lenteur, et après, je sais pas. Très modeste comme projet 2024 pour l'instant.
Ah bah, on a hâte, néanmoins. Donc, si tu avais l'occasion de rencontrer un personnage historique, qui choisirais-tu ?
Jules Verne. Pour moi, c'est le père de la science-fiction. Mmh. Je sais qu'il y a des débats. Certains minaudent un peu en disant la science-fiction est née après. Pour moi, Jules Verne, c'est un repère. Parce que j'ai découvert Jules Verne en Italie, dans la bibliothèque de mon grand-père italien qui lisait Jules Verne en français. Et dont j'ai hérité la collection aujourd'hui. Et puis, il y a cette dimension pédagogique qui, moi, me paraît très importante. Alors, bien sûr, la science-fiction ne doit pas qu'être pédagogique, hein, bien sûr. Mais ça compte, l'idée de la transmission des connaissances. Mmh. Et puis, voilà. Et puis, pour le capitaine Nemo, pour le professeur Aronnax, pour Otto Lidenbrock, enfin, pour tous les grands personnages... j'aimerais pouvoir avoir la chance de discuter quelques minutes avec lui. Voilà.
Et si tu pouvais être un objet magique, lequel serais-tu ?
Un objet magique ? Un porte-au-loin.
D'accord.
De Harry Potter, parce que ça permet d'aller instantanément partout. Et que moi, souvent, je suis inspiré dans l'écriture par les lieux dans lesquels je me trouve. Mmh. Et par exemple, là, l'Italie m'a inspiré, donc pouvoir aller n'importe où. Tu vois, en fait, finalement, on laisse passer le temps, quoi, tout simplement. Voilà.
Et justement, ma prochaine question, c'est si tu pouvais te téléporter n'importe où irais-tu ?
Ça peut être n'importe où, mais aussi dans le temps, c'est-à-dire...
N'importe où.
J'irai à Athènes. J'irai à Athènes dans l'Antiquité, avant la décadence d'Athènes, pour suivre les cours des sophistes, très critiqués par Socrate, évidemment, mais pour comprendre comment la démocratie athénienne fonctionnait. Mm-hmm. Alors, on sait qu'elle n'était pas du tout idyllique, hein, et ça me fait toujours beaucoup rire quand les gens veulent revenir à la démocratie antique, qui est en fait extrêmement élitiste. Mais je pense que j'irai voir Athènes parce que, même dans le réel et même dans le présent, malheureusement, je n'ai jamais pu aller à Athènes. Donc, ça fait 25 ans que j'enseigne à Athènes sans jamais y avoir mis les pieds. Donc, même si ta question se réduisait à où aller aujourd'hui au présent, je pense que j'irai à Athènes. Pour voir aussi, tu sais, si ce que j'enseigne a la moindre validité, en fait. Parce que peut-être qu'on enseigne des choses fausses et peut-être que la citoyenneté n'était pas du tout ça. Voilà.
Très bien. Et pour finir, quelle musique choisis-tu pour accompagner cette interview ?
Pour sortir un peu des classiques, Interstellar et tout ça, je pense que je choisirai un groupe allemand de musique électronique qui est très peu connu, qui s'appelle SPOK. Mmh. En forme d'acronyme, c'est-à-dire SPOCK, parce que c'est un groupe que j'ai découvert grâce à des amis qui sont dans la musique électronique et qui est très inspiré de la science-fiction. Et il y a une chanson qui est très très drôle qui s'appelle Dr. McCoy. Et dans cette chanson, en fait, Spock prend échantillonne tous les extraits des épisodes de la série originale où le Dr. McCoy se plaint toujours qu'on lui demande des choses qui sortent de son domaine de compétences. Et donc il dit toujours je suis un docteur et pas un ingénieur, hein. Je suis un docteur et pas un escalator, par exemple. Et la chanson, elle est très rythmée, elle est sympa, et voilà. Donc je choisis celle-là.
Eh bien, je te remercie beaucoup.
Merci à toi.
Ta présence.
Merci à toi pour tes questions.
petit blip blip quand même. À la fin de ce morceau de Spock, Dr. McCoy, extrait de leur cinquième album, Spock 1999. C'est un groupe suédois qui chante surtout de Star Trek dans ses chansons. On a quelques minutes pour parler de l'agenda avant de clore cette émission.
Et justement, il y a un vernissage.
Bah, ça commence bien 2024.
Ce jeudi. C'est cool. À partir de 18h, à propos d'une exposition, les songes du roi Griffu de Maïlys Colombier. Alors, c'est au 122 et c'est une exposition qui durera jusqu'au 10 février sur les horaires d'ouverture du 122. Et les
une BD qui avait été primée
voilà,
ici, en GBD en 2022. Que ça a l'air d'être une BD de fantasy.
Oui, complètement. Plutôt jeunesse, visiblement, je crois, d'ailleurs.
Ah bon? Ouais, les personnages ont l'air jeunes, ouais. Puisqu'on parle de BD, il y a un gros focus BD à la bibliothèque de Montplaisir.
Oui.
Qui commence là, et notamment il y aura une exposition Paria, donc les amis Tony Emerio et Boris Beuzelin, qui est en train aussi de bosser sur notre visuel 2024.
Ouais.
Coucou Boris, des bisous. Et puis, donc ouais, Expo Paria, donc leur comics, dont deux tomes sont sortis jusqu'ici, sur quatre. Et puis, pas mal d'animations, et notamment, il y aura un battle de bande dessinée le vendredi 2 février, avec donc Tony Emerio, Boris Beuzelin, mais aussi Fange Juteau et Dominique Hennebeau.
Et l'exposition dure combien de temps?
Alors, l'exposition Paria, c'est du 16 janvier au 30 mars. Voilà, donc à la Bibliothèque de Montplaisir. Et puis, on va terminer l'émission avec un morceau d'inspiration premier plan, puisque le festival... Le cinéma Angevin aura lieu du 20 au 28 juillet, janvier. C'est très bientôt. Nous, on est intéressés surtout par la sélection Vertige, hein, qui passe des films de genre.
Oui, ouais.
Et le thème est, de la rétrospective étant le sport, et ben, il y a une soirée sport de la mort avec Rollerball et Speed Racer. Et les horaires viennent de sortir. Donc ça, ce sera le lundi 22. Et le lendemain, il y aura une soirée Dario Argento. Avec deux films que je n'ai pas vus au cinéma, moi. Donc, c'est l'occasion. Ce sera mardi 23. Il y aura Ténèbres et Quatre mouches de velours gris, un de ses premiers giallo, avec une musique à l'époque d'Ennio Morricone. Donc, on va terminer notre émission là-dessus et on vous dit rendez-vous dans deux semaines sur le 5.5.
Salut, salut, bonne...
Radio G 101.5 FM.